Voix enchantée.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez Voix enchantée, l'émission d'une vingtaine de minutes qui donne la parole à un ou une invitée venue partager ses goûts artistiques, un texte personnel et une bribe de phrase marquante entendue dans son entourage. Pour ouvrir l'année 2025, on accueille Julia au studio de Radio Campus Paris. Bonjour Julia.
Bonjour Louisa.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, c'est-à-dire ce que tu fais dans la vie, si tu as des passions, si tu as un travail ?
Oui, alors j'ai un travail actuellement chez Miam, où je vends des fruits et des légumes et on fait aussi des petits repas avec les fruits et légumes restants. Et à côté, j'ai une activité artistique qui est plutôt discrète actuellement quand même, de photos, vidéos et d'écriture.
Trop bien.
Voilà.
Cuisine et art.
La vie, quoi.
On y va avec ton choix d'artiste. Julia, comme chaque mois, l'émission, elle commence par le choix d'un artiste qui, toi, te touche particulièrement. Est-ce que tu peux nous révéler qui c'est ?
Oui, c'est Giulia Andreani. Alors, je l'ai découverte grâce à ma cousine Anne-Sophie Liban. Qui m'en a parlé et je suis allée voir son travail sur internet et j'étais fan de son esthétique, de ses recherches aussi parce qu'elle a fait énormément de recherches. Elle a travaillé sur l'histoire des femmes, donc à travers la Première Guerre mondiale, et je trouvais que c'était très important d'avoir une artiste contemporaine. Quand tu me demandais ce qui m'inspire actuellement, bah une artiste contemporaine, ça fait du bien. Et une peintre en plus, et qui est très importante pour nous construire et pour aussi lire d'autres récits, des récits de demain, que ça soit pour revisiter les grands moments d'histoire. Voilà, elle propose pas mal de choses en relecture. Enfin voilà, je vous laisserai tous redécouvrir ce qu'elle fait.
Et qu'est-ce qui te touche dans sa peinture ? Est-ce que tu saurais dire, donc tu m'as parlé d'histoire, des femmes, est-ce qu'il y a quelque chose esthétiquement dans sa peinture où tu te dis là, ça m'attrape en fait ?
Il y a quelque chose de très magnétique, de par aussi la couleur qu'elle utilise, donc c'est du gris de pin, je crois qu'on appelle ça comme ça, et il y a un truc où on a l'impression limite que c'est une photo. Et il y a comme un truc très très réaliste, très concret quoi. Le portrait par exemple de Frida Kahlo, petite fille, il est aussi poétique et très, très sensible. Enfin, je trouve ça très précieux la manière dont son esthétique figure et en vrai il nous attrape. Et il n'est pas là pour dénoncer quelque chose ou autre, il est là pour sublimer un instant, un moment déterminant dans l'histoire. Et franchement... Bah, chapeau, quoi. Enfin, du coup, il y a une humilité aussi dans le choix du matériel, quoi. Enfin, dans la couleur.
C'est marrant parce que tu as utilisé plusieurs fois les termes de récit, poésie, relecture. Enfin, c'est de la peinture, mais on a l'impression que l'écriture ou la littérature n'est pas loin. Mmh. Et c'est assez intéressant parce qu'elle est et chercheuse et peintre. Ouais. Donc peut-être que ça aussi, c'est inspirant et ça se retrouve dans ces tableaux. Mmh. Je vous propose qu'on écoute sa voix à Giulia Andreani. C'était au Centre Pompidou. En 2022, elle nous parle justement des effets bleutés de sa peinture.
On me parle souvent de ma peinture comme étant bleue. Ce sont des images bleutées pour toute une série de raisons, mais la couleur, ce n'est absolument pas un bleu. C'est un faux bleu. C'est le gris de Payne. C'est une couleur indéfinie qui définit mon travail, je pourrais dire. C'est une rigueur qui permet d'inscrire mes peintures dans une réflexion sur le médium de la peinture, mais aussi sous son rapport à la photographie. C'est que ça renvoie à des photos d'archives en mauvaise qualité, mais aussi quelque part de quelque chose qui a fait beaucoup ma construction finalement visuelle. C'est finalement de l'image des écrans, quoi, des images d'écran des vieilles télés.
C'est intéressant parce que les effets bleutés de sa peinture, du coup, ça rappelle donc les écrans, le côté très contemporain actuel que tu as convoqué en disant « Moi, quand je choisis une artiste, il faut qu'elle soit contemporaine. » Donc là, en fait, on retrouve ce que toi, tu souhaitais convoqué dans la peinture. Et aussi le rapport à la photo. Parce que tu nous as dit tout à l'heure, moi, dans ma pratique artistique, je fais de la photo.
Ouais, c'est vrai. J'y avais pas pensé de cette manière, mais oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça aussi que ça m'attrape aussi facilement. Je me sens proche d'elle d'une certaine manière, mais elle a un talent.
Et on a Julia et Julia.
Oui.
Et on continue avec ton coup de cœur musical. Le deuxième chapitre, Julia, en musique, c'est ton coup de cœur musical. Est-ce que, avant qu'on écoute un morceau que tu as choisi de nous faire découvrir, tu peux nous annoncer le nom de l'artiste et le titre du morceau?
Alors, c'est Moon Age Daydream de David Bowie.
Julia,
oui.
Tu saurais dire pourquoi ce morceau-là en particulier te touche ?
Oui, parce que c'est le seul morceau de toute ma vie, je veux dire depuis 30 ans, on va dire, qui m'a créé un choc de « waouh, c'est quoi ça ?» Et pour moi, c'est super important. Il fait partie presque de mon identité, en fait. Je pense que je l'ai découvert, j'avais 16 ans. Ouais, 16 ans, je promenais mon chien sur la coulée verte. Et,
Ah oui, donc c'est très imagé. T'as le souvenir de la première fois où tu découvres cette chanson.
Ouais. Ouais, ça m'a vraiment choquée. J'ai dû enlever mon casque, le remettre aussi. En fait... J'ai pris... déjà, cette musique, elle s'est retrouvée dans mon MP3 parce que, juste, j'étais curieuse de découvrir une nouvelle musique qui traînait sur l'ordi de mon père. Donc, merci papa au passage. Et en découvrant l'album Ziggy Stardust et tout... Enfin, j'ai parlé de Moon Age Daydream, mais tout l'album est incroyable.
Oui, c'est ce que je voulais te poser comme question. Est-ce que tu es fan de David Bowie ou c'est vraiment ce son-là en particulier ?
Ouais, je suis fan de David Bowie au sens large. Je okay. pense, clairement. Et ce son particulier, on va dire, il a résonné plus que les autres, et je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y avait un truc où j'avais l'impression qu'il s'adressait directement à moi, que voilà, j'étais concernée. Et puis d'un coup, aussi, j'arrivais à lire l'environnement dans lequel j'étais de manière plus cinématographique. C'est-à-dire, là, clairement, on est dans le cliché où je suis avec ma musique à fond et j'ai l'impression d'être dans un film. Et bah, c'est exactement ce que je ressentais avec cette musique et avec mon chien qui allait au parc canin. Enfin, très... Et à partir de cette musique, j'ai eu envie de faire des photos, des clips encore plus qu'avant. Et du coup, j'ai saoulé mes amies pour le faire et elles ont accepté alors qu'elles détestaient être à l'image. Donc, c'est vraiment des amies. Et j'ai fait mon premier clip, pseudo-clip à la campagne, comme ça, quoi.
Enfin, mais sur cette musique-là ou pas forcément ?
Sur cette musique-là.
Ah. Et il y a encore des images, tu penses ?
Je pense, mais je ne sais pas où elles sont pour le moment. Mais si je les retrouve, je te dirai. C'est...
Trop bien. Et quand tu dis que cette musique, elle était comme adressée à toi,
oui.
Est-ce que tu penses aux paroles ? Est-ce que tu penses à la musicalité, à la texture de la voix ? Enfin, ou est-ce un tout global ?
Pas les paroles. Pour le coup, enfin, c'est pas ce qui m'est venu en premier. Je trouve que les paroles, elles sont très importantes dans ce qu'il veut dire, parce qu'il y a quelque chose où il appelle à la tolérance dans cette chanson et tout ça. Mais c'est pas les paroles. En effet, c'est son adresse quand même. Et tu parlais de texture, je crois que c'est vraiment ça. Il y avait une texture, une couleur dans sa musique qui était comme bah ça c'est ta couleur, c'est ta musique, enfin c'est comme quand on essaie même une veste et que genre ça y est on trouve sa veste typiquement
ça te va bien quoi,
voilà c'est ça, et ça fit avec nous quoi.
Et est-ce que elle t'accompagne encore aujourd'hui ou tu gardes en mémoire ce choc etc, mais est-ce que tu peux l'écouter au quotidien encore?
Ouais, je peux l'écouter au quotidien. Après je fais attention de bien un peu ritualiser les choses que j'aime aussi, c'est-à-dire ça va pas être une musique de fond quoi que je vais mettre comme ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'écouter comme regarder un film super concentré, enfin il y a des choses comme ça où j'ai envie de me plonger dedans quand je les écoute. Si elle m'accompagne encore aujourd'hui, je pense qu'elle m'accompagnera toute ma vie.
C'est beau, on continue avec ton partage de texte.
Oh gosh.
C'est le cœur de l'émission. C'est le moment où tu vas partager un texte que toi, tu as écrit. Est-ce que, avant de nous lire ce texte, tu peux nous le contextualiser, c'est-à-dire revenir sur quand est-ce que tu l'as écrit ? Est-ce que c'est il y a longtemps ? Est-ce que c'est pour l'émission ?
Ce texte, je l'ai écrit pendant le confinement, au tout début, où j'étais très choquée, très en colère. Je n'arrivais pas à comprendre comment au niveau du monde dans son entièreté on en est arrivé là. En tout cas, il s'était passé plein de choses parce qu'on avait eu les émeutes, on avait eu la grève des transports, on avait eu tellement de choses en fin d'année, plus après là le confinement, je trouvais que j'avais besoin d'extérioriser cette colère et ce texte est arrivé. Voilà, c'est un texte aussi où je le place dans une personne que j'étais à l'époque, c'est pas ce que je pense aujourd'hui spécialement. Mais c'est comme si je lui donnais la parole, quoi.
À une version de toi-même, un cri du cœur, quoi.
Voilà.
Merci beaucoup, on t'écoute.
Tout d'abord, je me place comme si j'étais votre amie et je ne vous reproche rien. mais parce que je suis votre amie, je me permets de vous le dire pour votre bien et le bien de notre avenir collectif. Si cette réflexion ne vous apprend rien, tant mieux. Et si au contraire elle suscite en vous des choses, profitez-en. Le collectif est abîmé. L'histoire, nos histoires à chacun, les guerres, les trahisons, les corruptions, les ruptures, les agressions, les peurs, nous ont comme dans une famille liée et divisée. Le jugement, la malveillance, le soupçon, l'incompréhension ont nourri notre désintérêt pour le monde qui nous entoure. Nous ne savons rien, mais on agit comme si on savait tout. Pourquoi ? Le collectif ne résiste pas au commérage, à l'individualisme, à la peur de l'autre. Avec cette peur, nous agissons égoïstement et de manière chaotique. Je ne crois pas au miracle d'une prise de conscience collective, mais bien d'un élan progressif. Je suis née dans un milieu où on a un toit, de quoi manger, mais on est désinformé, fatigué, déçu. Mais peu importe où vous êtes née, votre éducation a créé ce lien invisible qui vous connecte aux autres. Sans vous en rendre compte, vous interagissez avec vos propres biais. Pourtant, êtes-vous déjà demandé pourquoi je ne suis pas connectée aux autres davantage ? Pourquoi je suis si désintéressée de la politique ou alors de mon histoire ? Pourquoi vous arrive-t-il de penser qu'à vous, je veux dire de votre propre personne, dans des décisions collectives ? Nous sommes ignorants dans trop de domaines indispensables, c'est un fait. Mais nous pouvons changer cela. Intéressez-vous à l'autre, n'ayez pas peur d'interroger votre confort. Soyez humble, partagez. La force du collectif a sauvé nos peuples depuis des années. Je ne vous demande pas de sauver le monde, je vous demande de vous y intéresser pour avoir des idées et donner du sens à nos valeurs et créer du collectif.
Merci beaucoup Julia.
Merci
pour ton partage de texte. Je t'imaginais en fait sur la place de la République à faire une tribune et du coup c'était assez agréable.
Ok, cool.
On va passer tout de suite à ton œuvre phare. J'ai l'impression, ce qu'on me dit à l'oreillette ou ce que j'ai pu voir dans tes choix, que c'est un petit peu lié ton choix d'œuvre phare à ton texte personnel sur le côté militant ou activiste. On y va ? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cette œuvre ?
Bien sûr, c'est Gloria Steinem. C'est son autobiographie assez récente aussi, qui est sortie, je pense, il y a 3-4 ans. Et c'est « Ma vie sur la route ». Donc, elle a commencé en journaliste et ensuite, elle a fait un peu le tour des États-Unis pour trouver un moyen de faire rapprocher des entités qui ne se parlent pas d'habitude. Par exemple, des familles ou même la problématique des Amérindiens à l'époque. Elle a permis à des gens qui ne se côtoyaient pas de parler entre eux et on appelle ça du coup une community organizer. Et ce livre retrace l'histoire des États-Unis à travers son point de vue et avec des réflexions. Elle est très douée pour amener des réflexions politique et féministe en quelques phrases qui permettent aussi de savoir où nous placer en tant que femmes par rapport à tous ces combats.
Est-ce que dans Comment c'est écrit, ça t'inspire aussi ?
Oui, beaucoup, parce que c'est très factuel. Je crois que j'avais besoin de ça à ce moment-là aussi. Très rationnel sur des faits et des conseils pragmatiques qu'elle va se donner et qu'on va découvrir et qu'on peut prendre pour soi-même.
Et tu dirais que ce livre, il a changé ta vision à toi sur ce qui t'entoure ?
Oui, ma capacité à agir avec ce qui m'entoure. Je pense que je ne me sentais pas forcément capable de faire quelque chose pour que ce soit politiquement parlant, d'un point de vue aussi féministe. En fait, elle m'a donné l'espoir que je pouvais faire des choses concrètement, juste en aidant des gens à communiquer. Enfin, c'est pas juste en aidant des gens, mais voilà. En tout cas, elle m'a donné des actions concrètes à réaliser. Aussi, d'arrêter de s'excuser d'être en colère, c'est OK de plus accepter ça, et ouais. Non, vraiment, ça m'a fait péter des verrous à des endroits où j'en avais besoin, quoi.
C'est ça, j'allais dire, elle donne des clés et toi, tu dis péter des verrous. Donc, on est dans la même métaphore.
Voilà.
On va l'écouter dans un extrait. C'était le 21 janvier 2017 à Washington, son discours lors de la Women's March. Nous sommes réunis ici pour l'intégrité du corps. Si vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe sous nos peaux, vous ne pouvez pas non plus contrôler notre enveloppe corporelle. Vous ne pouvez pas contrôler nos vies.
Ça veut dire qu'on a le droit de décider où et quand donner naissance ou non, sans l'interférence du gouvernement. Nous sommes ici et autour du monde pour une profonde démocratie qui dit que nous ne serons ni silencieuses ni contrôlées. Nous travaillerons pour un monde où chaque pays est connecté. Peut-être que Dieu se cache dans les détails, mais la déesse est dans les connexions. Nous sommes unis les unes aux autres et nous ne nous regarderons pas de haut. C'est fini de demander la permission à papa. Nous sommes liés, nous ne sommes pas classés. Et c'est un jour qui va nous changer pour toujours, parce que nous sommes ensemble, chacune d'entre nous, individuellement et collectivement, nous ne serons plus jamais les mêmes.
C'est marrant parce que tout ce qu'elle dit dans son discours fait écho à ce qu'on vient de dire. Que ce soit sur le côté individuel, donc elle raconte à la première personne, mais ça dit quelque chose de l'histoire collective. Elle dit aussi, un moment un peu plus tard dans le discours, parlez-vous en fait, vous êtes venus me voir à cette tribune, mais parlez entre vous, présentez-vous les unes aux autres, les uns aux autres. Et donc ce côté-là collectif me rappelle aussi beaucoup ton texte que tu viens de nous lire en fait.
Ouais, t'as raison. Et je crois que c'est important pour moi le collectif. Ouais, c'est très important.
On continue avec la dernière étape, ta bribe de phrase.
Hey, listen. You too crazy, nigga. You better stop now. You better stop. Let me tell you something.
C'est déjà presque la fin, Julia, avec une bribe de phrase que tu as attrapée au vol dans l'espace public ou dans ton entourage. Ça peut être un bout de conversation comme ça qui t'a marqué, qui t'a choqué, qui t'a pas plu, enfin ce que tu veux. Ça peut aussi venir d'un livre. Je vois qu'il y a des livres sur la table. On t'écoute.
J'hésitais entre un livre ou une phrase qu'on dit souvent. Donc je vais te dire la phrase, peut-être. C'est ce qui me vient spontanément. C'est le fameux « quand on veut, on peut ». Donc voilà, en fait non, voilà, désolée, je vais casser un mythe de fou, mais non, quand on veut, on ne peut pas. Et les dernières années me l'ont bien fait comprendre, et en fait ça me saoule parce que je l'entends encore, et moi avant je la croyais vraiment, parce que c'était ma grande-tante qui la disait souvent, mais Juju, quand on veut, on peut, et j'en ai même offert une tasse à mon père, une petite tasse pour son café le matin, quoi. Donc on était vraiment dans le truc.
Tu l'avais intégré au plus profond.
Je l'avais intégré et ça infusait. Enfin, moi-même, je m'éduque dessus pour arrêter de se faire culpabiliser et juste se tranquilliser et se faire plaisir. Voilà. Enfin, c'est aussi pour parler du soin de soi, de prendre soin de qui on est et de se laisser tranquille, quoi.
Super comme dernier mot de la fin, j'adore. Et en plus, pour le mois de janvier 2025, où il fait 1 degré à Paris,
oui.
C'est vraiment parfait. Merci, Julia.
Merci
d'avoir été la voix enchantée de janvier.
Merci
Je remercie
à toi.
Aussi Rosalie à la réalisation. Et on se retrouve le mardi 11 février à 18h sur le 93.9 et quand vous voulez, en podcast, sur le site de Radio Campus Paris et Spotify. Arrivederci.